a miné la base, qui a fait sauter le pont, qui avait disposé du ciment sous les plaines, qui savait au début qu'il y aurait une fin. Qui êtes-vous, messieurs dames, pour me parler comme ça?
Bertrand Cassoret, donc je suis un ancien de la radio. Moi, j'ai fait partie de PFM de 1984 à 2007. Oula, ça date pas d'hier tout ça. Et en 93, à l'époque du concert de Noir Désir, eh bien, je faisais une émission qui s'appelait Les Fantaisies. Et puis je m'occupais déjà à l'époque du matériel de la radio en tant que bénévole.
Comment c'est venu l'idée d'organiser ce concert de Noir Désir à Arras ?
Alors, d'après mon souvenir, c'est Daphné, qui était une animatrice de PFM, qui bossait l'été en tant que stagiaire à la radio et donc qui avait pris les contacts. Alors comment elle a eu le contact exactement, j'en sais rien. Bon, ce qui est clair, c'est une proposition de concert qui a fait l'unanimité dès le départ. Noir Désir, c'était le groupe montant, le groupe rock français qui avait toutes les qualités pour nous plaire. C'était bien rock, c'était une bonne musique, c'était pas commercial, patati patata.
Ouais, puis c'était assez aussi engagé au niveau des textes.
Aussi, donc ça plaisait à certains pour ce côté-là et puis à d'autres pour le côté musical.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas, il n'y avait pas que PFM dans l'organisation de ce concert, c'était aussi avec le Théâtre d'Arras. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça s'est passé pour organiser le concert en fait?
C'est vrai que financièrement, PFM est toujours d'ailleurs une association loi 1901, donc avec des moyens limités. Donc organiser un concert comme ça, c'est prendre un gros risque. Alors il faut savoir que dans ces cas-là, c'est l'organisateur qui achète le spectacle en quelque sorte et qui après se rémunère sur... les entrées. Donc à l'époque c'était 80 000 francs.
C'est déjà beaucoup. Hein.
Et bon, ça paraît un peu dérisoire aujourd'hui. Enfin bref, mais non, c'était une grosse somme. Donc PFM n'avait pas les reins assez solides et on avait la chance, comme on a eu beaucoup souvent la chance d'ailleurs à PFM, d'avoir le Théâtre d'Arras pour nous épauler financièrement et pour, je ne sais plus exactement financièrement comment ça passait, mais en tout cas il y avait le théâtre derrière pour assurer le déficit éventuel. Le théâtre étant une structure culturelle, je dirais, qui ne cherche pas à faire de bénéfices et qui a les reins assez solides.
Alors, c'était pas si évident. Bon, déjà, 80 000 francs, c'est quand même une grosse somme. Mais en plus, le tourneur a attendu avant de vous soumettre le contrat, de vous le faire signer, c'est ça ?
On n'était pas trop contents vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis du tourneur, vis-à-vis des Noirs Désirs aussi, parce qu'ils ont qu'à embaucher un tourneur. Ils avaient qu'à travailler avec des gens plus honnêtes, je dirais. Déjà, la date a été reportée. On voulait un week-end. Finalement, on nous a dit non à la dernière... Enfin, pas la dernière minute, mais quand les choses étaient déjà bien avancés. Le contrat, finalement, il n'y a jamais moyen de l'avoir. Donc, on est obligé de faire la pub, on est obligé de tout engager, d'engager les frais, jusqu'à quasiment la dernière minute. Et le contrat, vous le signez la veille ou l'avant-veille du concert. Donc, s'il vous tire dans les pattes, en gros, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'était pas très honnête comme façon de travailler. Et puis, en plus, nous, très naïvement, on avait toujours pensé que 80 000 francs, c'était 80 000 francs. Mais c'était 80 000 francs hors taxe. Et ça ne nous était jamais venu à l'idée non plus.
Alors quand le concert a lieu, donc en 93, hein, si
ouais,
j'ai pas de...
début 93, si notre mémoire est bonne. Ouais.
C'est le plein boom de Noir Désir, l'explosion même au grand public, puisque c'est au moment de l'album Tostaki, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc Noir Désir, ils ont débuté dans les années 80, je dirais à peu près 86, quelque chose comme ça. Ils se sont quand même bien fait connaître avec Always Lost in the Sea, hein. Bon, ça c'était leur premier album. Arrivé en 93, là c'est, je dirais, peut-être pas l'apogée, mais en tout cas le début de l'énorme carrière de Noir Désir, hein, qui a marqué indéniablement le rock français. Et là, c'est la tournée Tostaki, donc un album qui a décollé, qui s'est vendu énormément, qui a plu énormément. Et forcément, le casino était plein, donc on avait créé un événement, on peut dire, à Arras avec ce concert. Hein.
On va revenir un petit peu sur le concert après, mais d'abord, avant le concert, il y a eu une interview, tu as fait partie des personnes qui ont pu rencontrer Noir Désir, les interviewer.
On avait organisé une conférence de presse, hein, donc on avait convié un petit peu tous les gens de la presse, à droite à gauche, à venir leur poser des questions. Donc une conférence de presse qui a eu lieu au casino, au premier étage, avec les fenêtres ouvertes, on entend un petit peu d'ailleurs les bruits de circulation dans la rue. Voilà, ça a permis à chacun de se faire un peu une idée de la mentalité du groupe, quoi.
Quel souvenir tu gardes de cette interview, toi ?
Pas un super souvenir, moi. Disons que c'est peut-être encore un peu facile à dire aujourd'hui quand on sait ce qui s'est passé avec Bertrand Cantat. Mais je l'ai trouvé un peu prétentieux, un peu donneur de leçons. J'aimais pas trop ce côté. Je l'ai trouvé pas super agréable, quoi. Un peu cassant, des fois, même. Voilà, quoi.
Jusque-là, ça a toujours été une volonté de pas jouer dans des trucs qui me mangent, mais c'était pas non plus nécessaire de jouer dans des trucs qui me mangent.
Noir Désir en 1993, au micro notamment de Bertrand et Bruno de PFM.
Jusque-là, ça a toujours été vrai. Et là, on a des tout petits problèmes parce que quand on joue dans des salles trop petites, on a des problèmes de. On sait qu'il y a parfois des gens dehors et qu'on ne contente pas tout le monde. Donc, ça peut, à l'extrême, ça peut finir par être un problème. Mais ça finit par l'être de toute façon. Quand on va faire les états généraux du rock, c'est à Montpellier, aux Zéniths, parce que ça c'est un cadre un peu spécial. Il nous arrive de faire des salles plus grandes quand même. À l'origine, on aime moins ça que des salles plus chaudes. Et il y a un trou entre les salles de 1200, 300 personnes en France et les salles de 6000 personnes. Il y a un trou entre ça et ça, ce qui pose un gros problème. Parce que nous, on est plutôt entre ça et ça.
Il n'y a pas de salle intermédiaire ?
Pas tellement.
Pas vraiment. Tu te retrouves dans des halls.
Ça doit sonner très bien, c'est vrai. Il y a juste un petit problème, c'est qu'on ne peut pas enlever les sièges. Donc c'est au risque et péril des sièges.
Ouais,
c'est
très bien.
Bon.
Le début de la tournée, ça s'est passé comment ?
Comment le début de tournée ? C'était bien, c'était bien, c'était très chaud. C'était des salles justement qui étaient. Là, on en avait trouvé des salles de environ 3000 personnes et qui étaient vraiment chaudes. Enfin, surtout une, à Nice. Mais c'était très très bien.
Et pas d'appréhension par rapport à la dernière qui a eu quelques problèmes ?
On verra bien. Non, ça roule, ça va, tout va bien.
Au niveau de l'album Ciment sous les plaines, vis-à-vis des critiques, c'était plutôt le disque commercial, plutôt Stacky, c'est un peu la réponse. Bien, ça a été critiqué comme disque commercial, Tosaki, c'est la France.
Non, ça n'a pas été critiqué comme ça. Ça a été critiqué sous bien des aspects, mais pas tellement cet aspect-là.
Au niveau de la maison de disque, quand même, c'est un petit peu le pouvoir de la maison de disque, il y a eu des petits problèmes.
Non, c'est pas ça. Nous, on n'avait plus de dialogue du tout avec la maison de disque. Ce qui fait que, paradoxalement, il était forcément anti-commercial puisqu'il faisait rien. Il n'y a eu aucune promotion.
Il n'y a pas eu
rien. Rien.
C'était la guerre.
Donc c'est l'inverse.
Donc de Stacky, c'est là justement qui, première fois qu'il y a eu un maxi aussi.
Ouais, parce que c'est rigolo de faire des inédits. Parce que ça nous permet de mettre des choses qu'on peut pas mettre habituellement. D'ailleurs, on espère qu'on va pouvoir en faire un autre, qu'on va mettre des choses vachement marrantes.
Et le maxi, ça permettait de faire aussi un maxi vinyle, ce qui est pas désagréable non plus, quoi. Autant laisser partir le vinyle en lui apportant quelques trucs encore, quoi. Mais bon. C'est évident que ça va se terminer, mais tant qu'il en reste encore un petit peu. Tu vois, là, on n'a pas réussi à faire tirer de l'album en vinyle. On est en train d'essayer de passer par la bande, mais à mon avis, ça va pas, tu vois.
Parce que ça concerne tellement beaucoup de gens qu'il y a des circulaires qui existent et qui interdisent le fait qu'on les fasse.
Ils disent non, vous ne pouvez plus devenir.
Terminé. Oh.
Et pourquoi vous tenez à faire du vinyle, à continuer à faire du vinyle ?
Juste pour faire chier.
Voilà. D'abord, c'est plus beau. C'est un vachement bel objet. Puis, je sais pas.
Quand bien même ça concerne que 2000 personnes, ça les concerne.
C'est toujours moins cher.
Si c'est 2000 personnes, ben c'est 2000 personnes. Ils sont autant respectables que le grand nombre qui est concerné par les CD.
C'est toujours moins cher que le CD. Et en plus, le CD, comme tous les nouveaux supports qui vont sortir maintenant, c'est la même arnaque que d'habitude. On te dit au départ ça va être cher et puis après ça sera moins cher. Et en fait c'est toujours aussi cher. C'est un peu comme les péages d'autoroute, c'est pareil.
Ou le pont de Port Carmé.
Voilà, c'est la même chose.
Vous verrez dès qu'il est remboursé, il sera gratuit.
Voilà, mais il est jamais remboursé parce que bon.
Jamais. Puis ça s'oublie au bout d'un moment.
Voilà.
Hop là.
Et les nouveaux supports et le CD, c'est la même arnaque.
Noir Désir au micro de PFM, c'était en 1993 à Arras. On revient avec notre Bertrand à nous, Bertrand Cassoret, qui a participé à l'interview et à l'organisation du concert pour PFM.
Le concert de Noir Désir à Arras a quand même marqué pas mal de monde, parce que c'était un concert où ça a pas mal bougé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, parce que pour ceux qui
alors ce qui s'est passé, c'est que donc comme on travaillait avec le théâtre d'Arras et le casino, nous on avait prévenu que ça risquait de bouger beaucoup, parce qu'on avait déjà vu Noir Désir notamment à l'ancienne aéronef, pour ceux qui ont connu, et on savait que ça remuait énormément. Et on avait prévenu qu'il fallait enlever les sièges des premiers rangs. Bon, Max Gaillard, qui était le directeur du théâtre d'Arras à l'époque, nous avait dit « Oh, je m'en souviens encore, oh, vous inquiétez pas, s'il y en a qui font l'imbécile, on ira les voir pour les calmer gentiment, ça va bien se passer. » Le problème, c'est que quand un concert comme ça démarre avec plus de 1000 personnes et que ça commence d'entrée à remuer, à pogoter, comme on dit, à bouger, à faire du stage diving, on ne peut plus rien faire. C'est impossible d'aller voir les gens un par un pour leur dire doucement quand même, s'il vous plaît. Donc, je me souviens qu'effectivement, c'est un concert qui Tostaki, hein, c'est un morceau qui bouge énormément. Noir Désir, ça a toujours été sur scène détonnant. Et forcément, ça remuait tellement qu'il y a des sièges qui se sont décollés, hein, les sièges du casino d'Arras, qui n'étaient vraiment pas une salle adaptée. Et je me souviens très bien de la tête de Max Gaillard, le directeur du théâtre, que j'ai croisé sur le côté pendant le concert, qui faisait une tête qui m'a fait... Enfin, je peux pas vous faire la tête à la radio, mais oh là 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 là, il était un peu paniqué. Donc en plus, tout le monde fumait dans la salle, ce qui n'est pas très cool, à une époque où la loi E20 n'était pas passée, mais quand même, on n'avait pas pour habitude de fumer dans ce casino.
C'est la moquette des sièges, c'est un peu ambiance tapis rouge, oui, à l'époque c'était comme ça.
Exactement, donc d'un point de vue sécurité, ça devait pas être tip-top. Bon, ça s'est bien passé, à la fin du concert, effectivement, il y a eu quelques rangées de sièges qui ont été décollés, arrachés, qu'il a fallu remplacer, mais bon, il n'y a pas eu de blessés ou de choses comme ça, c'est tout. C'était quand même une ambiance bon enfant.
Ouais, ça a laissé un super souvenir. Bon, il y a quelques personnes, j'ai entendu parler, qui ont des traces au niveau des tympans, du niveau sonore du jeu.
C'est sûr qu'il valait mieux pas être trop près des enceintes. Là, pareil, au niveau réglementation, j'ai quelques doutes sur le respect de la réglementation en des décibels. Ouais.
Mais c'est Goethe, donc ça, c'était quand même un moment marquant pour Arras. Ce genre de concert dans une salle complètement pas adaptée, quelque part c'est un peu à l'image de PFM, un truc un peu décalé par rapport à la ville. Comment tu vois ça, toi?
Un peu décalé par rapport à ce qui se passe à Arras en général, oui, en même temps forcément, puisque là on avait touché un groupe de rock qui était le groupe rock, enfin peut-être pas du moment parce qu'ils n'étaient pas encore devenus célèbres, mais en passe de le devenir vraiment, un gros groupe, je dirais, par rapport à la ville d'Arras, oui, forcément, donc un peu décalé, oui, certainement, mais enfin en même temps, des groupes comme Noir Désir, il n'y en a pas non plus tous les deux ans qui débarquent, donc c'était un petit peu, c'était un petit coup, on peut dire ça comme ça, quoi, hein, qui a marqué beaucoup d'esprit. Il y a quand même énormément de gens qui se souviennent de ce concert et qui en parlent encore, hein, notamment il y a Hubert Ferré à La Voix du Nord qui vous en parle régulièrement. Si vous le croisez, vous verrez, il ne tarit pas d'éloge sur ce concert.
Bertrand, ancien animateur de Radio PFM, à propos de ce concert de Noir Désir en 1993 à Arras. On écoute un autre extrait de l'interview réalisée à l'époque.
Le nouvel album Tostaki, qu'est-ce que ça vous ferait si on disait que c'était un album de hardcore?
Ça vous ferait marrer.
Ça vous ferait marrer.
Peu importe comment on appelle les choses, vraiment on s'en fout.
Hardcore, grunge, alors moi ça m'a fait beaucoup rire, ça, grunge.
Vous avez eu ce genre de remarques?
Pardon, c'est ce qu'il dit, lui. Ouais.
Mais vous, on sait que ça existe, on sait à peu près ce que ça veut dire, mais ouais. Tout ça sont des tiroirs où on veut bien ranger les choses et tout ça. En plus c'est, si tu veux, des fois tu peux te dire à tel moment il y a cet esprit-là, à tel moment il y a cet esprit-là, mais c'est pas... Nous on peut pas se définir comme ça, ni par hardcore, ni par... T'en as qui vont nous mettre dans la chanson française, et juste après, il y en a qui nous mettent dans le hard rock, ils n'hésitent pas. Nous, ça va, parce que on se met où on veut.
Pas d'étiquette.
Bon, personne ne souhaite avoir une étiquette, ça c'est pour les pots de confiture.
Et Rambo, c'est une étiquette ou Rambo,
Non plus. Il l'aurait regretté.
Ouais, ça lui plairait pas.
Non, et puis non, on se permet pas de s'attribuer à qui que ce soit.
Mais est-ce qu'il y a des sources d'inspiration pour indiquer quand même?
Oui, mais elles sont multiples et elles sont pas forcément selon une suite dite logique ou habituellement logique.
Qu'est-ce qui vous a inspiré sur le dernier album par rapport
à... D'abord le monde tel qu'il se passe. Enfin, c'est un bien grand mot, mais l'espèce d'odeur que rend l'époque. Mais pas seulement l'odeur générale des choses, l'odeur que tu ressens toi dans ton... Ben, je veux dire, quand tu fais quelque chose, tu le fais pas... C'est pas la peine d'écrire la même chose que ce qu'il y a dans la presse, que ce qu'il y a dans... Qu'est-ce qu'il y a aux infos, qu'est-ce qu'il y a... Ça doit repasser par ton truc personnel, et c'est ça qui compte. Ensuite, c'est énormément de choses, quoi. C'est difficile à dire. Mais c'est de toute façon un truc très très réactif. Cet album-là, il est très... beaucoup réagi à des choses, finalement. Même si ça se sent pas directement, ni dans les textes, ni... Parfois ça se sent, d'ailleurs, ça dépend lesquels.
Dostaki, par exemple, c'est une chanson... La chanson, c'est lié au bicentenaire de... X centenaire de la découverte des États-Unis. Est-ce que c'est uniquement ça, ou est-ce que c'est également un point de vue sur les États-Unis aujourd'hui?
Oui, non, c'est un point de vue comme ça, c'est un point de vue complètement subjectif sur le continent américain et sur ce qui s'y passe, et effectivement en même temps avec le 500e, mais il se trouve...
Mais c'est une réaction viscérale.
Ah oui, avant tout, c'est une vision comme ça d'une chose qui est forcément subjective, sinon c'est pas intéressant. C'est une vision qui se propage et puis qui se dit ensuite, c'est tout. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, c'est pas très intéressant parce que ça devient quelque chose d'asséché, de dévitalisé. Ça, c'est une vision. C'est d'ailleurs qui dit des choses qui sont totalement descriptives et puis réalistes. Et puis d'autres qui sont de l'ordre presque du rêve. Là. C'est là où c'est une vision.
Et au niveau des choses.
Sans prétention aucune, vision, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on le voit.
D'accord. Vision au sens.
Ouais, ouais.
Dans les chansons, vous vous exprimez toujours par rapport à des personnages. C'est déjà vrai pour les précédents albums, Lola, Joey, etc. Et je me rappelle avoir lu dans une interview que c'était des gens que vous rencontriez, que vous connaissiez. Pas forcément.
Non, en plus, ça m'étonnerait que tu aies lu ça. Parce que c'est juste. Bon, quand il y a des personnages qui sont utilisés, soit ils existent en partie, soit ils t'aspirent quelque chose, soit les personnages sont des espèces de synthèse de plusieurs personnages ou de gens que t'imagines. Il n'y a aucune règle dans ce domaine, aucune. Et sinon, ça devient chiant.
Et par rapport à ça, Marlène, dans le dernier album, est-ce que c'est... Est-ce que c'est l'actrice?
Là, ça, c'est Marlène Dietrich. Ça, c'est clairement
Marlène Dietrich.
Qui apparemment était quelqu'un de détestable, en fait. Ça, c'est toujours pareil, on n'est pas d'un bloc. Elle, c'était compliqué. Justement, parce que tout était en façade aussi, on sait jamais trop.
Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez quitté en ce moment?
Bon, on écoute plein de trucs, on écoute un groupe qui s'appelle Rage Against the Machine, par exemple, qui est un groupe de gentils garçons. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute... Toujours.
Ouais, le dernier Tom Waits, c'est vachement bien. Le dernier Julian Cope, très bien aussi. Toi, t'es pas trop...
Donc là, on est quoi? Les gens n'écoutent pas la même chose, parce que de toute façon, on se parle plus, on se fait plus. Dans le camion, on a un paquet de trucs bien. On écoute toujours Fugazi, bien sûr. On écoute pas mal de rap, bizarrement. Enfin, moi je sais que ça m'arrive assez souvent, en fait.
Des groupes.
Open Public Enemy, par exemple. Il y a un disque qui est vraiment bien, des Disposable Heroes aussi, ça y est. J'écoute Arthur H, tiens. Petit truc un peu en français. Puis.
Young Gods.
Toujours les Young Gods.
Vous avez des goûts communs entre vous quatre?
Ah oui, quand
même.
Chacun
votre petit jardin.
Non, on a un gros tronc commun.
On se retrouve sur quelques trucs, quoi.
là c'est bien, on se fait écouter des trucs, etc. Dans le jour, on a trimballé de la musique Tigane, tout ça. Comment on peut nous en tirer quelque chose directement, c'est pas le problème, tu vois, mais tu te baignes dans quelque chose qui est...
Qui fait du bien.
Qui fait beaucoup de bien, et puis qui... Non, on a vraiment plein de trucs, il faudrait qu'on vous déballe là totalement. Parce que c'est pas du tout quelque chose de monolithique comme ça n'a aucun intérêt. Ça.
Noir Désir au micro notamment de Bruno et Bertrand de Radio PFM. C'était à l'occasion de ce concert qui a marqué les oreilles arageoises en 1993. À l'époque, ça se passait au casino. Alors vous pourrez réentendre l'intégralité de l'interview avec bruit d'ambiance et tout le toutim sur notre site internet radiopfm.com. Demain, dans Info 30, suite de notre projet Cassette, je vous rappelle qu'à l'occasion des Journées du Patrimoine, on avait lancé un appel pour que les auditeurs nous envoient de vieilles cassettes de PFM de 80 à aujourd'hui. Et donc demain, on se penchera sur une émission punk qui sévissait sur les ondes arageoises au milieu des années 90. L'émission s'appelait Chaos Radio et ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc rendez-vous demain dans Info 30, 7h30, 12h30 et 18h.
Pas la pluie de sagesse, fourrée sur le trottoir, notre mère la terre, éternez-moi. Qu'ils ont compris qu'il n'y a plus le choix, que l'esprit qui souffre guidera leur pas, qu'arrive le dernier temps où nous pourrons parler. Alors soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien, soyons désinvoltes.